Music Remembrance Radio. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Cécile Quenet, musicologue, maître de conférence à l'Université de Lorraine, pour parler d'Elsa Baren. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Du coup, qui est Elsa Baren et pourquoi ce rapport avec le travail mené par Music Remembrance Radio ?
Alors, qui est Elsa Baren ? Tout d'abord, c'est une jeune prodige. Elle naît en 1910 à Paris. Elle est la fille d'une chanteuse et pianiste et accompagnatrice et du violoncelliste solo de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Elle est donc dans un, elle grandit dans un milieu de musiciens et elle est initiée très très jeune à la musique. Elle entre à 9 ans seulement au Conservatoire de Paris, où elle rejoint les classes de piano préparatoire et de solfège spécialisé, puis d'harmonie, de fugue, d'accompagnement et de composition. Alors elle ne va pas à l'école, elle va directement au conservatoire. Et ça, elle le regrettera. Elle regrettera de ne pas avoir eu de culture générale par l'école et de sociabilité aussi enfantine. Mais pour la culture, c'est véritablement son maître Paul Dukas en composition qui va l'initier aussi à tout un tas de sujets et aussi à la culture générale, à la musique, à la philosophie, bien sûr. Donc, elle est marquée par l'enseignement et la personnalité de Dukas, qui est son professeur dans la classe de composition, et elle restera très proche de Paul Dukas jusqu'à sa mort en 1935. En 1929, elle est lauréate du premier Grand Prix de Rome de composition, qui est alors la principale voie d'accès à la carrière en France pour les compositeurs. Et elle a seulement 19 ans. Donc après Lili Boulanger en 1913, Marguerite Canal en 1920 et Jeanne Leleu en 1923, Baren est la quatrième femme à obtenir cette récompense. Donc c'est vraiment une exception, une jeune prodige qui obtient un sésame qui d'habitude est réservé aux hommes. Puisqu'elle a le prix de Rome, elle est pensionnaire à la Villa Médicis. C'était quand on obtenait ce prix, d'être pensionnaire et de composer pendant 4 ans environ à Rome. Et c'est ce qu'elle fait entre 29 et 33. Elle s'y ennuie pas mal à Rome, mais elle passe beaucoup de temps à lire et elle compose également plusieurs envois. C'était des partitions que devait envoyer à l'Institut les jeunes lauréats du prix de Rome. Et ses œuvres commencent à être jouées à Paris. Et d'ailleurs, en 1932, son court opéra sur un livre d'Albert Carré, Le Roi Bossu, est joué et créé à l'Opéra Comique. Alors, la réception de cette œuvre est assez mitigée. Les critiques, comme très souvent avec les œuvres des femmes, sont condescendants. Et on dit aussi que la jeune compositrice est un peu trop, influencée par Debussy. Donc son œuvre ne remporte pas un énorme succès. Elle-même d'ailleurs ne sera pas particulièrement fière de cette œuvre plus tard quand elle reviendra sur son parcours. L'Italie, c'est aussi pour Elsa Baren un moment d'éveil de la conscience politique, puisque Baren est à Rome, dans le contexte d'une Italie enlisée dans le fascisme, et plus généralement d'une Europe minée par la montée des extrêmes droites. Et en 1933, première œuvre qui est inspirée par ce contexte politique, elle compose une illustration symphonique pour Pogrom, d'André Spire, qui est donc un poète, qui s'inspire donc cette œuvre d'un poème qui dénonce les attaques des nazis à l'encontre des juifs. Baren elle-même est particulièrement touchée par ces pogroms qui ont lieu en Allemagne à ce moment-là, puisque son propre père est juif. Donc ça, c'est la première partie, on pourrait dire, de sa vie, du conservatoire à la Villa Médicis jusqu'en 1933. Mais une fois qu'elle a terminé son séjour à Rome, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va devoir gagner sa vie, gagner sa croûte, comme elle le disait. Et forte d'un très bon niveau de piano, d'un talent d'accompagnatrice, elle va devenir pianiste accompagnatrice des chœurs Félix Rogel, rattachée à la radiodiffusion française. Puis, elle rejoint l'Orchestre national de la radio en tant que chef de chant. Donc, elle accompagnait au piano les solistes et les chœurs avant les répétitions avec orchestre. Et elle va ensuite d'ailleurs continuer à exercer cette fonction de chef de chant à l'Opéra Comique au début de l'occupation, entre 1941 et 1942. Donc voilà, c'est quand même une activité qu'elle va exercer plusieurs années. Et à la radio, elle va aussi rencontrer beaucoup de personnalités du milieu musical qui vont être très importantes pour elle. Et notamment Inge Brecht, qui était chef d'orchestre de l'ON, l'Orchestre National. Alors les premières traces de son militantisme, au-delà de pogroms qui étaient déjà une dénonciation des attaques subies par les Juifs, les premières traces d'un vrai militantisme datent de 1937. C'est cette année-là qu'elle commence à fréquenter les cercles de gauche, à s'impliquer à la Fédération Musicale Populaire, qui est une organisation affiliée à la Maison de la Culture, qui est elle-même étroitement liée au Parti communiste français. Donc elle va travailler aussi pour le Chant du Monde, qui est un éditeur musical et label discographique également lié au PCF. Et elle va réaliser des harmonisations et des orchestrations de divers chants populaires, notamment soviétiques, pour le Chant du Monde. Et la maison d'édition donc, du Chant du Monde va aussi accueillir et diffuser ses propres œuvres. Voilà, donc on voit qu'elle se rapproche vraiment des cercles de gauche à Paris et des cercles musiciens de gauche. Mais son véritable engagement citoyen, on pourrait dire, date de 1938 avec son adhésion au PCF en réaction aux accords de Munich. Elle rappellera dans une interview beaucoup plus tardive, quand est arrivée Munich, l'affaire de Munich, il n'était pas question de rester sans rien faire, il fallait faire quelque chose et je ne serais pas entrée ailleurs qu'au Parti communiste. C'est aussi en 1938 qu'elle va recevoir la commande du 9 symphonique par l'État et qu'elle compose sa deuxième symphonie qu'elle va appeler Voïna, la guerre en russe, qui va annoncer une guerre imminente et témoigner de son rapprochement avec l'URSS. Donc on a vraiment cette adhésion au PCF et concomitamment cette symphonie avec ce sous-titre russe, la guerre, qui annonce la guerre à venir. Pendant la drôle de guerre, elle va suivre l'orchestre de la radio qui est replié à Rennes et rentrer à Paris au début de l'occupation pour s'occuper de ses parents. Mais le problème, c'est qu'elle va être licenciée de la radio dès janvier 1941. Elle travaille alors comme elle le peut. Elle donne des cours, elle fait des travaux d'orchestration, elle est chef de chœur dans différents théâtres, mais elle décide de ne plus composer. Elle l'écrit de façon très puissante dans un texte qui s'appelle « À la musique », qui est une sorte de lettre d'amour à la musique, mais une lettre de rupture surtout, en fait. Elle dit que la musique, sa passion qui l'a occupée toute sa vie jusqu'à la guerre, est désormais vaincue. Et que les musiciens, parmi lesquels elle se compte, doivent maintenant descendre de leur tour d'ivoire. La compositrice blâme la musique de l'avoir aveuglée, de lui avoir fait croire qu'elle était la chose la plus importante au monde. Or, la guerre est arrivée, qui s'est montrée plus forte que la musique et qui l'a réduite au silence. Maintenant que les puissances mauvaises sont au pouvoir, écrit-elle, maintenant que la musique est muselée, que les citoyens sont asservis, la musique ne peut être libre, ne peut s'exprimer. Alors, elle décide de ne plus composer jusqu'à ce que le mal soit jugulé, dit-elle. Donc il y a vraiment cette volonté de silence, d'entrer dans le silence, mais ce n'est pas du tout synonyme d'inaction pour elle, au contraire. Parce que 1941, c'est le moment où elle entre en résistance. En mai 1941, le PCF va lancer son mouvement de résistance, le Front National, et appeler à la formation de comités dans chaque branche professionnelle. Et en septembre, Barren va cofonder avec le chef d'orchestre Roger Desormières et le compositeur Louis Duré, également membre du PCF, le Comité de Front National des Musiciens, le FNM. Et ils vont regrouper autour d'eux des compositeurs principalement, mais aussi des interprètes d'opinions diverses, mais unis par un même refus d'accepter l'occupation allemande et sa propagande musicale. Barren va avoir un rôle très important, elle va animer véritablement ce Front National des Musiciens, chargée des contacts aussi avec la hiérarchie du PCF, elle devient vraiment la cheville ouvrière de cet unique groupement de résistance des musiciens face à l'occupant nazi, donc en France. Et elle participe notamment à la diffusion de leur journal clandestin, Musiciens d'aujourd'hui, qui dénonce la propagande nazie, la collaboration culturelle et exhorte les musiciens à la résistance dans leur domaine d'activité, par des actions et par des compositions qui vont exalter la patrie résistante. Et on en reparlera tout à l'heure. Il se trouve que Barène n'a pas seulement résisté au sein du FNM. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est arrêtée le 12 janvier 1943. La police l'arrête après avoir retrouvé ses papiers chez un faussaire communiste, ce qui montre qu'elle devait avoir des activités liées aux faux papiers. Elle va nier, elle est finalement relâchée. Mais elle doit prendre ses distances avec le Front National de la Musique et laisser Louis Duré prendre sa suite. En avril 1943, elle fait un périple en zone libre pour fournir des faux papiers à un ami, Louis Zager, qui est à la fois allemand, juif, homosexuel et communiste, ami compositeur à qui elle apporte ses papiers. Et elle semble aussi avoir trouvé de faux papiers pour son père à cette période-là. Et en 1944, elle échappe de peu à une nouvelle arrestation et doit cette fois entrer en clandestinité jusqu'à la fin de la guerre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Barène avait décidé d'arrêter de composer. En fait, elle va sortir de son silence créateur alors que grandit l'espoir de la libération, puisqu'en mai-juin 1944, elle écrit une œuvre sur un tout récent poème de résistance d'Éluard qui s'appelle « Avis ». Avis, ce titre fait référence aux affiches placardées par les occupants pour annoncer la condamnation à mort des résistants. Et c'est un poème court qui parle de la dernière nuit du condamné à mort et qui est un poème aussi d'espoir, profondément engagé, puisque le résistant condamné à mort, alors que son corps le fait souffrir et qu'il... Il est au fond de l'horreur, c'est ce que nous dit, c'est ce qu'écrit Éluard. Eh bien, il voit un espoir. Il se rend compte, et là je cite Éluard, il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions. Pour le venger, il le savait, et le jour se leva pour lui. Donc je vous propose d'écouter la mise en musique de ce poème d'Éluard par Elsa Barène, donc en mai-juin 1944.
Thank you.
Donc nous venons d'entendre ce poème mis en musique par Elsa Barène, qui était interprété par l'ensemble vocal français sous la direction de Didier Bollet. Je vous laisse continuer.
Barène dédie son œuvre à la mémoire de son camarade résistant communiste Georges Dudache, qui a été fusillé par les Allemands. Et c'est très touchant, cette histoire aussi avec ce résistant, puisqu'elle l'a rencontré une fois. Il était dans son réseau et elle dit qu'elle l'a rencontré une fois et que Georges Dudache lui aurait dit « Si on ne se revoit pas, c'est que j'ai été pris. » Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait la puissance de cette œuvre? Déjà, il y a quelque chose de très sobre dans la mise en musique qui permet de mettre en évidence le texte d'Éluard. On a une première partie qui correspond aux 6 premiers vers du poème avec une sorte de psalmodie de la voix soutenue au piano par des accords très dissonants, une pédale de tonique immuable, la même note répétée à la basse et une ligne vocale très restreinte dans ses intervalles qui tourne autour d'une même note assez conjointe avec quand même des intervalles très dissonants. Et une seconde partie qui se développe, qui est marquée par une éclaircie progressive. Hein, c'est le moment où le condamné à mort n'est plus seul, se rend compte qu'il est rejoint par tous ses camarades résistants. Et cette éclaircie est accompagnée par une montée dans le registre, par une modulation en majeur, au ton relatif, et par un climax musical vraiment sur des millions et des millions. Et à la toute fin, vous l'avez entendu, on a vraiment un figuralisme assez similaire avec une éclaircie vraiment de la musique qui vient souligner le sens du poème. C'est surtout visible cette éclaircie avec le piano parce que la partie vocale reste sur cette note répétée Fa qui rappelle le sombre début du morceau. Il y a quelque chose dans cette note pédale régulière, d'ailleurs dans tout le morceau, qui contribue au caractère de marche un peu lugubre, presque funèbre, qui se dégage de la pièce, même si on est dans un tempo un peu plus rapide que les marches funèbres habituelles. Avis est une œuvre qui a rencontré un certain succès dans l'immédiate après-guerre et qui a souvent été jouée dans les concerts d'hommage aux résistants au moment de la libération. Et il faut savoir que Barène n'est pas la seule à avoir mis en musique des poèmes de résistance d'Éluard et d'Aragon. Il y a aussi des pièces de Poulenc qui sont plus connues, figures humaines notamment. Il y a aussi des pièces d'Auric, il y a des pièces de la compositrice Claude Arieux. Et ces différentes œuvres répondent aussi à un des objectifs du Front National de la Musique dont on parlait juste avant, qui demandait aux compositeurs de faire des œuvres exaltant les aspirations de la patrie et donc la libération. Alors c'est une pièce qui est vraiment très touchante, qui en plus correspond à l'idéal de simplicité que Barène et d'autres musiciens vont chercher peu après la Seconde Guerre mondiale, dans on va dire le sillage du progressisme, c'est-à-dire de l'adoption des lignes communistes qui est donc faite en France autour de quelques musiciens qui se disent progressistes et dont Barène fait partie. Alors, justement, la libération, c'est un moment très riche pour Barène, riche en engagement aux côtés du PCF, aux côtés des musiciens progressistes. Et c'est aussi un moment où elle a beaucoup de commandes. Elle travaille aussi à l'Orchestre National, encore une fois, mais comme preneuse de son pour les captations radiophoniques de l'orchestre jusqu'en 1947. Il y a une rupture toutefois avec le Parti communiste qui a des incidences sur sa carrière puisqu'à la fin de 1949, on ne sait pas exactement encore pourquoi, Barène rompt avec les musiciens progressistes et avec le PCF. Mais elle poursuit son engagement de façon personnelle puisque jusqu'à la fin de sa vie, elle restera une fervente communiste. Sans doute parce qu'elle est sortie de son réseau communiste, c'est une période qui s'ouvre et qui va être plus difficile. Elle a moins de commandes, elle compose moins régulièrement. Et c'est aussi un moment où elle va se mettre à enseigner, puisqu'elle est recrutée au conservatoire comme professeure de déchiffrage au piano. Elle retourne donc au conservatoire de Paris, rue de Madrid, pour prendre en charge cette classe de déchiffrage de 1952 à 1969, puis une classe d'analyse de 69 à 74. C'est Messiaen qui l'appelle pour le remplacer. Et c'est une professeure très investie dans la formation de ses élèves. Elle consacre beaucoup de temps à la pédagogie. Et donc, elle enseigne au total presque 22 ans au Conservatoire de Paris. Et très récemment, le CNSMDP, qui maintenant est dans le 19e à la Villette, a appelé un de ses espaces Patio Elsa Barène, en hommage à cette musicienne qui a été donc professeure pendant 22 ans dans la maison. Elle termine sa carrière enfin en tant qu'inspectrice des théâtres lyriques, un poste qu'elle occupe de 1972 à 1975. Alors, à part avis, on n'a pas encore beaucoup parlé de sa musique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'œuvre de Barène est très riche et très variée aussi. Il y a près de 150 opus, donc c'est assez considérable. Dans plein de genres différents. Elle a composé deux symphonies, plusieurs pièces pour orchestre, un opéra, on l'a vu tout à l'heure, de jeunesse, un ballet aussi, d'après Apollinaire, plus tardif, des cantates, des pièces pour chœur, des mélodies, de la musique de chambre, et une série de partitions pour le théâtre, la radio et le cinéma aussi. Beaucoup d'œuvres sont engagées, ou sont à destination du peuple. De nombreuses pièces témoigne de cette volonté qu'elle a eue de s'adresser à un large public, de défendre des idées, tout en maintenant des hauts critères d'exigence artistique. Donc elle a essayé de chercher cet équilibre aussi entre exigence et ouverture vers un large public. Et en témoigne ses œuvres pour chœur, dont certaines sont vraiment accessibles aux amateurs, et aussi sa proximité avec Éluard, bien sûr, poète communiste engagé, avec lequel elle a entretenu des liens forts, privilégiés, pendant une longue période. Sa production a aussi une dimension pédagogique, en lien avec son activité d'enseignante au conservatoire. Elle a écrit des œuvres de concours qu'on lui a commandées pour le conservatoire. Elle a écrit aussi beaucoup d'exercices pour le piano, d'exercices de déchiffrage. Certains sont édités, d'autres non. Et on voit bien à chaque fois qu'elle a à cœur de former les jeunes musiciens aux difficultés instrumentales et au langage de leur époque. Elle a aussi, on l'a vu, répondu aux possibilités offertes par les nouveaux médias, la radio, le cinéma, avec plusieurs œuvres pour les ondes et pour le grand écran. En 1960, sa production est surtout dominée par sa musique rituelle, pour grand orgue et percussion, d'après le Bardo Todol, qui était le livre des morts tibétains qui l'a énormément inspiré. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? C'est une œuvre très singulière, très puissante, mais aussi atypique. C'est une illustration musicale du chemin initiatique de la mort à la délivrance. Et plus généralement, c'est une œuvre qui montre bien son attirance pour les cultures extra-occidentales auxquelles l'avait initié Dukas, quand elle était son élève au conservatoire. Donc il y a un volet vraiment spirituel dans la production d'Elsa Barène. Et outre cette musique rituelle de 1967, on peut citer d'autres œuvres inspirées par la religion juive. En premier lieu, ces deux préludes des fugues pour orgue de 1928 et 1929, qui citent des chants de prière juifs. Donc voilà, il y a beaucoup d'œuvres de Barène à redécouvrir aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est tombée dans l'oubli pendant plusieurs décennies, très certainement du fait de ses mésaventures politiques, mais aussi parce qu'elle est une femme, et peut-être aussi car sa musique est d'abord de facture assez traditionnelle avant de s'ouvrir plus nettement à la modernité à partir de la fin des années 40. Elle est depuis quelques années remise en lumière sous l'impulsion des mouvements féministes de redécouverte des compositrices des siècles passés, et on ne peut qu'en s'en réjouir bien sûr.
Merci beaucoup Cécile Quenet pour cette très belle présentation d'Elsa Barène. On comprend que le travail sur Elsa Barène est possible grâce aux différents fonds présents à la Bibliothèque Nationale de France. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement sur lesquelles vous vous êtes appuyée?
Alors, je me suis principalement appuyée sur ce fonds, mais il faut savoir qu'avant moi, une historienne qui est journaliste aussi, Mariette Thom, a beaucoup travaillé sur ce fonds. Puisqu'elle a fait un mémoire de master d'histoire sur le parcours d'Elsa Barène. C'est un mémoire formidable dans lequel il y a beaucoup de choses pour comprendre sa carrière. Et avec Mariette Thom, justement, l'autrice de ce mémoire, nous avons préparé un article à quatre mains à paraître en 2024 dans un volume sur les parcours de compositrices au XXe et au XXIe siècle, dirigé par Delphine Vincent et Viviane Barbuff chez Slatkin.
Mais merci beaucoup. Hâte de redécouvrir cela. Music Moments Radio.